BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Tout pour investir TPI sur BFM Business. C'est en direct à la radio, à la télé, sur le web et en podcast. Et comme le temps passe, c'est la dernière de la saison aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera best-of, hein, les meilleures chroniques de la saison écoulée, notamment toutes les rubriques pratico-pratiques que vous téléchargez, que vous regardez de plus en plus, hein, la boîte à outils, le placement à suivre, le coffre-fort aussi. Mais avant ça, on va dresser aujourd'hui un panorama de l'épargne et de l'investissement particulier en France, histoire d'avoir une radiographie précise de vous, de votre état d'esprit avant la pause estivale, histoire d'avoir une vision claire. Grosse séquence de déchiffrage, on sera avec Charlotte Tamer de Shares, on sera avec Mark Templeman de Cash que vous avez l'habitude d'entendre à cette antenne. Et puis, Carole Rousseau de Quorum l'Épargne qui viendra nous présenter un baromètre très intéressant de l'investisseur en France. Donc, moment charnière pour l'année, on va déchiffrer tout ça, faire un point aussi sur la tendance du marché action. On sera avec Michael Landreau hein, qui nous présentera son plan de trading du jour. On aura aussi un chef à l'antenne, il sait tout faire, il est aussi chef cuisinier, François-Xavier Seur de Terrae qui viendra nous présenter la recette du gratin de poisson le plus servi par les spécialistes de la gestion et les banques. On vous en parle souvent dans cette émission, les produits structurés. Analogie du gratin de poisson bien expliquée dans le film The Big Short que je vous conseille pendant les vacances. On va vous représenter cette fameuse recette et vous expliquer que c'est un plat de connaisseur à pas confier forcément à toutes les papilles ni les estomacs d'ailleurs. Il faut bien vérifier la fraîcheur des ingrédients également pour des raisons claires qu'on va vous expliquer dans la boîte à outils. Eric Lewin nous présentera la dernière édition du journal des small et mid caps de l'année, hein, les performances annuelles des indices, les tops, les flops, et puis faire peut-être un point sur l'or aussi parce que c'est un sujet qui vous mobilise depuis le début de la saison dernière, un marché toujours très compliqué à arbitrer désormais avec cette période de pause qui se prolonge hein, vraiment sur les cours. Antoine Andréani d'XTB qui est régulièrement là sera là ce matin pour faire le point avant la pause estivale en fin d'émission hein, dans le coffre-fort. Vos questions, évidemment, vous pouvez nous les poser aujourd'hui, vous pouvez nous les poser tout l'été si vous voulez, par mail direct at bfmbusiness.fr, par SMS 73216, mot-clé business et votre message. Et puis sinon, vous pouvez m'écrire directement sur mes comptes Twitter et LinkedIn, hein, que je laisse ouvert aussi pendant les vacances. Le reste de l'actualité du jour, avec une French Tech qui se porte bien. C'est même son meilleur semestre depuis le Covid qui vient s'achever, hein, nous dit le baromètre EY Ernst & Young ce matin. 4,6 milliards d'euros levés en ce début d'année, c'est 65% de croissance en valeur, avec des gros tickets, puisque les levées supérieures à 100 millions d'euros pèsent la moitié des opérations, mais pas suffisantes pour dominer le top 10 en Europe. Hein, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont presque tout raflé. La présidentielle s'accélère, la gauche va trancher ce soir sur le périmètre de sa primaire. À ce stade, le seul candidat officialisé à cette primaire, c'est Philippe Brun, le député PS. Philippe Brun, candidat à la primaire de la gauche, qui dit être le candidat des salaires, avec une baisse de la CSG de 9,2 à 2,28 sur les salaires autour de 2 200 euros, hein, de pair avec un bouleversement du financement de la protection sociale. C'est ce qu'il nous expliquait ce matin sur BFM Business dans Good Morning Business, hein, sur le plateau de Laure Clausier. Et puis, il y aura assez de professeurs à la rentrée, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui nous le dit ce matin, grâce aux 24 000 admis cette année au concours des enseignants contre 16 000 l'an dernier. Tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Les marchés qui se portent mieux, ça a été difficile hein, la séance d'hier avec encore conjugué des doutes sur l'IA et les semi-conducteurs qui ont fait plonger les bourses asiatiques au matin et puis la reprise des hostilités entre États-Unis et Iran. Bon, pour l'instant, ça a l'air relativement ponctuel malgré de très très nombreuses opérations de bombardement américaines hein, sur des sites en Iran. On a vu que le pétrole était bien bien monté, hein, on a touché les 80 dollars, on les a même dépassés légèrement sur le Brent de mer du Nord. Hier en séance, on redescend du côté des 77 ce matin, 72 pour le brut léger américain. Et puis parallèlement, l'autre problématique, et puis là il va falloir la suivre tout l'été, c'est celle des taux d'intérêt avec un marché obligataire où les taux se sont bien bien tendus, et notamment du côté des dettes européennes. On a vu le 10 ans français véritablement dépasser les 3,9% en séance hier. Là, les choses se calment un petit peu, mais on sent que ça va être un des enjeux de l'été, bien évidemment. Alors, un point sur les indices. Le CAC 40, lui, gagne 0,35%. 8281 points, avec une surperformance assez nette de la tech, plus 0,8% notamment pour l'Euronext Tech Leaders. La tech qui se portait quand même bien hein, hier, malgré le fort recul des indices généraux. On voyait que les valeurs tech résistaient bien du côté des autres places européennes. Eurostock 50, plus 0,57. Plus 0,16% pour le DAX à Francfort, l'IBEX à Madrid, plus 0,97%. Il y a Londres qui pique un petit peu du nez, hein, moins 0,5%. Milan, plus 0,9%. Qu'est-ce qui marche à Paris si on dit que les technologiques surperforment? Ben, écoutez, STMicro, plus 3,6%, 60,62€, leader du CAC 40. Soitec, leader du SBF 120, à plus 4,6%, à 102,90€. Et puis Mersen, notre fameux spécialiste de l'ancien carbone Lorraine, notre fameux spécialiste des terres rares et des minéraux à destination de l'industrie électrique et électronique. Le titre gagne 4% à 39€. C'est la troisième plus forte hausse du SBF 120 sur le premier semestre quand même. L'autre secteur qui cartonne, c'est les banques. Société Générale, plus 2,95, 73,40€. BNP Paribas, plus 1,57, 88, 81. Et puis à noter, le luxe, bien orienté, plus 1,7%. Pour Kering, on est à 243,20€. Les taux, je vous en parlais, ça s'est un tout petit peu détendu ce matin. Un petit coup d'œil quand même sur les matières premières. 77,20 donc pour le Brent de mer du Nord, 72,80 pour le brut léger américain. Et puis, les actifs risqués remontent, l'or remonte. On en parlera avec Antoine Andréani en fin d'émission, mais ça reste quand même le semestre où l'or aura complètement changé d'objet sur les marchés. C'est très curieux. Il va falloir qu'on approfondisse ce sujet aujourd'hui, autant qu'en cette fin d'année où on va peut-être avoir droit à un changement de paradigme si ça bouge sur le dollar. Tiens, en parlant du dollar, l'euro-dollar 1,1428 à l'instant. Tout de suite, on déchiffre l'actu du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
On déchiffre et on déchiffre surtout que c'est la dernière de la saison, l'été va commencer et il est quand même urgent de partir en vacances avec un panorama un petit peu complet de l'état d'esprit des investisseurs, des épargnants. On va en parler, Charlotte Tamer de Shares, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous comme régulièrement à cette antenne, tout comme Marc Templeman de Cashbee.
Bonjour Antoine.
Qui est avec nous, bonjour. Et Carole Rousseau de Quorum l'Épargne.
Enchantée, bonjour.
Enchantée, bonjour, merci d'être en plateau en direct ce matin parce que vous êtes venu avec sous le bras un baromètre de l'investissement en France. Alors c'est vrai qu'on en a régulièrement hein, avec pas mal de sources, pas mal d'indications, pas mal de thématiques. Qu'est-ce qui ressort de votre publication très exactement en ce milieu d'année 2026 qui a déjà commencé sur de sacrés fondamentaux et puis qui continue sur vraiment de lourdes interrogations et beaucoup de volatilité, aussi bien sur les marchés que sur les possibilités d'investissement.
Eh bien, vous avez assez bien résumé les raisons pour lesquelles on a fait ce baromètre. La première chose, c'est que l'argent au sein de la famille n'est pas un tabou. Et donc, on découvre que les Français, finalement, à 82%, discutent de finances en famille, avec les amis. Le deuxième élément qui est vraiment probant, c'est que nos jeunes, de 18-24 ans à 95% plébiscitent d'avoir les clés pour bien investir, bien gérer, prendre les bonnes décisions sur leur investissement. Et donc à 95%, ils souhaitent que l'école s'en empare. Et puis on parlait aussi effectivement de la période actuelle. Et donc on a des Français qui veulent investir, mais en toute sécurité, donc très adverse au risque. Et donc, on a des Français qui vont sur des actifs qui sont beaucoup plus sécurisés versus il y a de ça quelques années. Donc ça, c'est vraiment les choses qui reviennent un peu systématiquement, et la capitalisation avec l'effet des retraites, etc.
J'allais vous le dire, c'est peut-être même un des paramètres qui change la donne, parce qu'on a vu vraiment un point pivot entre l'année dernière et le début de cette année. On a vu dans les différents baromètres d'investissement, je sais pas, il y a Gaël Sliman aussi qui de temps en temps vient nous présenter régulièrement le baromètre Doxa. C'est beaucoup plus jeune, c'est beaucoup plus conscient que l'État sera plus au rendez-vous, en tout cas dans les proportions dans lesquelles il était jusqu'à présent. C'est aussi l'effet positif de tout ce qui est né de ce phénomène d'investissement qui est né après le Covid. Donc on s'ennuyait, on s'est dit tiens, je vais m'occuper de mes finances. Tout ça crée une dynamique qui se prolonge. Et qui a tendance, même si on regarde les chiffres de BlackRock, de l'investissement dans les ETF, à s'amplifier, et alors particulièrement en France.
C'est vrai. Alors on a à peu près 55% des Français qui aujourd'hui se pose la question, alors c'est souvent entre 35 ans et 50 ans, avec l'effet ciseau, hein, on se pose la question de son quotidien, et on se pose la question de comment on va gérer notre retraite dans le futur. Et donc cet effet ciseau fait qu'aujourd'hui, on a des épargnants qui s'emparent en fait du sujet, qui souhaitent savoir dans quoi ils épargnent. Et ça, c'est vrai que chez Corum, c'est quelque chose qui revient systématiquement. On épargne toujours mieux dans un actif que l'on comprend. Et donc ça, ça fait partie aussi des sujets que l'on voit au sujet de... Enfin, nos épargnants, en tous les cas, font aussi ce résumé. Ils nous disent, on a besoin de savoir dans quoi on investit, on a besoin d'être sécurisé. Et notre avenir en dépend, puisque effectivement l'effet retraite arrivera très certainement.
Et puis éducation, et puis explication, et rester à l'écoute. Dans la boîte à outils, on va redécortiquer, parce que ça reste quand même un des sujets d'investissement de finances personnelles de l'année, tout ce qui se passe autour des produits structurés, qui est quand même diablement intéressant, et qui nécessite justement de la connaissance, de l'explication, etc. Et un effort de la part des distributeurs. Charlotte Tamer, qu'est-ce que ça vous évoque, ce baromètre ? Il y a énormément de choses logiques. Il y a des phénomènes qui sont en train de se préciser. Puis vous arrivez avec un autre baromètre. Est-ce que ça recoupe un petit peu ces indications-là en ce milieu d'année 2026?
Oui, je pense que tout converge dans la même direction. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui sont en train d'arriver sur le marché du travail sont beaucoup plus alertes et averties sur le contexte démographique, sur le fait que sans parler de l'État qui interviendra, enfin qui ne pourra plus de toute façon intervenir, ce qu'on disait la dernière fois sur la situation démographique française. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit. Au final, on investit mieux dans un produit qu'on connaît. Bah oui, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas le sous-jacent qui va faire la performance du portefeuille. Enfin, en quelque sorte, si vous investissez, si vous restez sur votre livret A, il y a moins de potentiel quand même de performance que si vous rentrez sur les marchés financiers. Mais ce qui, le corollaire en fait du sous-jacent, c'est le comportement de l'investisseur lui-même. Et quand on comprend ce qu'on est en train de faire, on sait à quoi s'attendre et quelque part, on peut aussi adapter avoir conscience des risques dans lesquels on investit et ça évite alors de rentrer au mauvais moment, quel est le bon moment pour rentrer, mais surtout ça évite de sortir au mauvais moment. Et on se rend compte dans les analyses qui ont été menées dernièrement que le comportement humain, le comportement de l'investisseur final est une des premières raisons de sous-performance, même des unités de compte, des sous-jacents qui sont capables de délivrer normalement des performances de marché. Et finalement, quoi de mieux que de s'éduquer soi-même pour adopter son comportement face à un placement. Moi, je le répéterai et je cesserai jamais de le répéter, un placement qui vit bien, qui se déploie bien, c'est un placement auquel on ne pense pas avant de se coucher.
Oui, exactement. Oui, parce que sinon on dort pas. Oui, c'est évident.
Non. Et puis après on fait n'importe quoi.
Ouais. Carole Rousseau, il y a aussi un autre phénomène qui a émergé cette année. Alors aussi bien du point de vue du besoin d'éducation. Alors ça, on en parle, on en reparle et ça restera un enjeu de l'année. Cette volonté de s'informer, d'être bien conseillé, il y a l'émergence des finfluenceurs. On en a souvent sur le plateau et il y a des gens quand même très très intéressants, très pédagogues. Puis à l'aide de l'IA. Alors ça, bon, on est dans le buzz de l'actualité du moment, mais ça aussi, c'est un facteur qui a joué et qui explique aussi qu'il y a cet intérêt, cette proactivité de la part de l'épargnant pour organiser son futur.
Alors, il y a une vraie tendance de fond, 18-24 ans. Effectivement, fait confiance, précis, là, ouais. Voilà, 18-24 ans font confiance à l'IA, mais pas aveuglément. Donc c'est un complément aujourd'hui et donc oui effectivement. Alors je pense qu'on en discutait précédemment, mais dans un an on refait le baromètre. Ouais. Je pense que les choses auront profondément changé. Je pense que l'avancée de l'IA qui se sera professionnalisée, industrialisée, les gens aussi vont adopter un comportement avec l'IA avec des prompts beaucoup plus précis qui permettent finalement d'avoir des choses plus personnelles, plus avec un conseil beaucoup plus premium. Mais aujourd'hui, il y a une vraie tendance de fond chez les jeunes, beaucoup moins sur les plus de 50 ans qui font encore confiance à leurs banquiers, à leurs conseillers en gestion de patrimoine, et c'est très bien. Mais c'est un complément. Ça doit rester un complément.
Mark Templeman, votre vision d'ensemble sur tout ce qui a été dit. Bon, il y a beaucoup de confirmations de phénomènes auxquels on assistait jusqu'à présent depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a aussi certaines choses que vous retenez comme éventuellement des pivots ou des points importants à guetter avant cette fin d'année?
L'étude est très intéressante, mais moi je soulignerais peut-être trois choses pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment. La première, c'est que c'est très bien de se tourner vers sa famille, mais ça dit quoi? Ça dénote le fait qu'on fait confiance à sa famille et pas nécessairement à son banquier et à son CGP, ce qui est dommage. Quand on se sent pas bien, on va plutôt voir un médecin. Et je dirais que dans le domaine de l'épargne et de la finance, pour quelqu'un qui se sent pas très à l'aise et qui n'a pas peut-être eu l'éducation financière qui est défaillante en France, il faut le dire, se tourner d'abord vers les cousins et les oncles.
Vous vous souvenez, là, à la fin d'année, on avait fait le point sur le truc à éviter absolument, c'est les discussions patrimoniales autour de la table de Noël.
C'est très bien d'en parler.
C'est
très bien.
Mon père est médecin.
voilà, non mais donc c'est très bien d'en parler.
Ah, ok.
Mais je dirais que les cousins et les oncles, ouais, les parents, vous parleront plutôt de ce qu'ils ont réussi et ne vous diront que très rarement les coups qu'ils ont loupés. Ouais, donc, ouais, première remarque, c'est normal de se tourner vers sa famille. C'est dommage de ne pas se tourner un peu plus régulièrement vers son banquier et ou son conseiller en patrimoine. Le deuxième phénomène sur lequel je rebondis, c'est l'IA. Je comprends parfaitement que ce soit les jeunes qui l'utilisent le plus. Je me méfierais quand même d'un constat qui consisterait à dire et les générations précédentes peut-être beaucoup moins. Moi, je peux vous dire que dans nos échanges avec nos clients, ils l'utilisent très souvent. D'abord pour poser des questions probablement plus pertinentes. Et donc, je confirme que l'IA pour aujourd'hui n'est pas utilisé comme un outil de prise de décision,
oui,
mais absolument utilisé à bon escient, il me semble, comme élément de soutien.
C'est ce que nous expliquait Marion Chapelle-Massaud de Carillon hier, de très bon lien, elle nous disait, mais nous on est obligé de se mettre à l'IA et de se faire conseiller par l'IA. Pourquoi ? Parce que le client, il arrive, il est conseillé par l'IA. Exactement. Donc, faut se mettre au niveau, en fait.
Troisième remarque, ce sera ma dernière. Le constat de dire, il faut que je m'occupe moi-même de ma retraite. Oui, ça, on en a suffisamment parlé. Malheureusement, ça se conclut par, et pourtant, je n'aime pas trop le risque. Donc, je me porte plutôt vers des actifs peu risqués. Quand on est jeune débutant, quand on est jeune et qu'on débute dans sa carrière professionnelle, c'est le moment où on a 30, 40 années devant soi et où, selon une logique irréprochable, c'est le bon moment pour maximiser la prise de risque parce qu'on sait que sur ces actifs, pour peu qu'ils soient bien choisis et bien diversifiés, on va générer en moyenne, sur une durée aussi longue, les rendements les plus attractifs.
La bourse, c'est peut-être le meilleur endroit où on peut oublier des sous et se rendre compte 30 ans après que...
Exactement.
Oui, c'est ça. C'est le risque et l'allié du temps, hein, si on se fonde sur une bonne stratégie. Carole Rousseau, on va peut-être regarder ce qui va se passer sur cette deuxième partie d'année. On a quand même un certain nombre de dynamiques de marché, sans pour autant rentrer dans la technique, qui vont changer le paradigme. Il y a des taux qui sont en train de grimper. Là, on a encore de très forts points de tension ces derniers jours. Mais encore une fois, et on le disait en début de saison, c'est les taux qui vont décider de tout et c'est les taux qui décident de tout en vrai.
C'est vrai. Alors les taux décident de tout. Alors nous, chez Coram, on est un peu à l'inverse du marché. C'est-à-dire que pour nous, c'est là où on fait les meilleures opportunités pour nos épargnants, pour investir dans nos SCPI. Donc très clairement, ça reste un élément qui pour nous est important, mais effectivement, ça va changer le comportement des épargnants. Les épargnants ont déjà changé leur comportement. Ils sont aujourd'hui sur des produits beaucoup plus liquides. On le voit, il y a un vrai transfert.
C'est toujours de ce côté-là que ça se joue, sur la disponibilité et sur la profondeur de marché.
Donc ça, c'est le premier élément. On a vraiment sur le premier semestre, et le deuxième, je pense, ne va faire que confirmer cet élément. Et donc, effectivement, les assurances-vie qui sont aujourd'hui vraiment le véhicule que les épargnants vont utiliser dans le cadre des liquidités. Donc ça, on continue à le voir et je pense que ça va se poursuivre sur la fin d'année. Très certainement.
Charlotte Tamer, on peut éventuellement prévoir que, disons que la rentrée sera un bon moment pour essayer d'un petit peu arbitrer, d'essayer de voir si la situation bouge sur un certain nombre de dynamiques, alors notamment de taux, mais d'autres, sur certains supports, sur certains produits précis.
Oui, en fait, on peut voir. La question, c'était de se demander quand est-ce qu'on revoit sa stratégie patrimoniale globale, en fait. Et généralement, on se rend compte qu'on est souvent en réaction et pas en anticipation, c'est-à-dire qu'on hérite, on divorce, on achète un bien immobilier, et en fait, il y a un séisme quelque part dans la vie personnelle qui vient impacter le domaine financier. Mais on se rend compte finalement que le patrimoine ne doit surtout pas être figé, c'est pas je décide quelque chose à un instant T et je laisse vivre. Alors, c'est pas en contradiction avec ce que vous disiez sur je rentre sur les marchés boursiers et plus j'ai de temps, plus j'ai de performance. Il faut quand même réallouer, alors en fonction des événements de vie forcément, mais pas que. Là, la question peut-être à se poser cet été, si vous disposez d'un petit peu de temps, en tout cas pour les épargnants qui nous regardent, c'est peut-être se poser la question de se dire de quand date ma dernière réorganisation patrimoniale, de quand date mes dernières allocations. Si, par exemple, elles datent de 2019-2020, il est fort à parier que les sous-jacents sont plus forcément en adéquation avec le contexte de 2026. Et pour ça, on peut citer, on voit que le contexte géopolitique devient un vrai facteur de marché, et a priori, c'est parti pour durer. Les taux immobiliers ont augmenté et peut-être peuvent remettre un petit peu en question l'accès au marché immobilier, en tout cas en, en direct, on se rend compte, enfin, l'inflation.
Évidemment.
Voilà, donc il y a pas mal d'éléments qui vont amener à se repencher. Le message, c'est n'attendez pas de toucher une somme d'argent importante ou d'avoir besoin d'une somme d'argent importante pour vous poser les questions. Toutes ces choses-là s'anticipent. Et peut-être commencer par deux questions. Si je devais refaire ma stratégie patrimoniale aujourd'hui, est-ce que je referais exactement la même chose qu'au moment où je l'ai faite pour initier peut-être ça? Et deux autres points que moi je regarderais, c'est est-ce que finalement à travers mes différents contrats que j'ai, est-ce que je suis vraiment diversifiée? Parce que finalement on se rend compte, tout le monde veut, pour les garanties qui y sont liées, travailler avec tel assureur mais aussi tel autre pour diversifier la détention de ses actifs. Mais finalement on se rend compte que bah, parfois même à travers un compte titre, un PEA et une assurance vie, on se retrouve finalement avec les mêmes fonds. Donc est-ce que je suis vraiment bien diversifiée? Et peut-être le troisième point, c'est regarder les frais sous-jacents aux actifs qu'on détient,
puisque
ils sont facteurs de la performance. On n'y pense pas souvent, mais c'est plus facile de cadrer ses frais que de définir le meilleur moment pour entrer sur le marché.
Dernière chose, Marc Templeman, je fais confiance aussi à votre expertise. Il y a quand même un certain nombre de sociétés, les dynamiques de l'IA, SpaceX, etc., qui nous ont obligés à penser un petit peu comme les pilotes d'essai américains dans les années 50, l'étoffe des héros, penser hors limite. C'est-à-dire commencer à valoriser les entreprises sur des multiples qui veulent plus rien dire si on se fonde sur nos bonnes vieilles méthodes de PR, de price earning ratio, etc. Est-ce que c'est aussi une forme de biais comportemental auquel il faut s'adapter parce qu'il n'y a pas le choix?
Alors je pense que le moment est très opportun pour au moins avoir cette discussion et de se dire, les valorisations, on le sait, sont pour beaucoup d'entreprises cotées au plus haut. Est-ce qu'il n'est pas temps de revenir aux approches fondamentales pour valoriser une entreprise cotée? Typiquement, c'est quoi l'actif net et c'est quoi le multiple qu'on accorde aux bénéfices futurs? Si on applique ces deux ratios extrêmement basiques à des sociétés comme SpaceX, il est fort à parier que vous n'allez pas investir dans ce titre. Il y a d'autres raisons peut-être pour le faire, mais en tout cas sur ces deux bases bien fondamentales, je pense que les métriques ne marchent pas, les maths ne marchent pas. Et en revanche, elles vous permettent d'identifier des entreprises qui peuvent paraître peu chères. Et donc, si vous êtes quelqu'un qui anticipe à un moment donné dans les 12 mois à venir une grosse correction boursière, sachez que par exemple les banques françaises aujourd'hui encore, leurs titres s'échangent à moins de la valeur de leur actif net.
Ce qui est fou.
Donc ça veut dire que si on prend une société comme la Société Générale ou Crédit Agricole, qu'ils vendaient tous les actifs qu'ils ont, qu'ils remboursaient toutes leurs dettes, et bien pour chaque euro qui vous reste, vous pouvez l'acheter cet euro à environ 60 centimes.
Ouais, la boucle est bouclée. Hein. On le disait de toute manière depuis le début de la semaine, c'est peut-être l'heure de la grande rotation. C'est peut-être l'heure de la grande rotation aussi du rêve et des yeux béats à est-ce que ça fait des sous cette entreprise? Et c'est peut-être plutôt pas plus mal. Oui, peut-être un retour aux fondamentaux de manière générale, aussi bien sur les supports d'investissement que sur la philosophie de marché, peut-être pour cette deuxième partie d'année, Carlos.
Alors sur nous, on parlait beaucoup d'épargnants avertis. Mais je pense que la première chose à faire, c'est déjà de lire son assurance vie, de savoir ce qu'on a dans son assurance vie, parce que bon nombre en fait d'épargnants ne le lisent jamais.
Et dans ces produits dérivés, on en parlera dans quelques minutes.
Exactement. Donc
produits structurés,
on revient toujours sur les mêmes basiques, effectivement pour les avertis, on est plutôt sur, on se repose les questions de comment on va arbitrer en fonction effectivement de la géopolitique, etc. Mais quand même, déjà bien lire en fait son assurance vie, savoir quels sont les frais, bien regarder ça aussi. Et donc sur la deuxième partie de l'année, nous on axe beaucoup sur l'assurance vie. On pense aussi qu'on va développer, mais la multiplicité des UC, je pense qu'on prendra pas cette direction. Je pense que ça incite en fait l'épargnant à ne plus trop y voir clair. Je trouve que la multiplicité des UC dans les assurances vie, c'est pas forcément une bonne chose. Et donc, si on devait prendre cette tendance, effectivement, on limiterait, quitte à faire des choix très précautionneux sur les sociétés de gestion avec lesquelles on travaillerait.
Apporter un petit peu de rationalité à tout ça, effectivement. Carole Rousseau de Quorum L'Épargne, merci infiniment d'avoir été présente sur ce plateau.
Merci à vous.
Charlotte Hammer de Shares et Marc Templeman de CashBee. On se retrouve évidemment à la rentrée pour continuer à déchiffrer cette actualité passionnante toujours de l'investissement et des marchés. Tout de suite, les arbitrages du jour.
Tout pour investir. Arbitrage.
Et on retrouve Mickaël Landreau. Bonjour Mickaël Landreau, le CAC 40 qui se redresse. Alors grâce à la tech qui avait surperformé hier malgré la très forte baisse des marchés, on sentait qu'il se passait quelque chose. Donc du coup, ça nous a donné un petit peu d'avance, un petit peu d'impulsion pour mieux attaquer la journée. Même si, ça reste pas non plus d'une conviction totalement tonitruante. Plus 0,3 pour le CAC.
Oui, bonjour à tous. Bah, en effet, hein, Antoine, Trump a encore frappé. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous parlez un petit peu toujours de la même chose à chacune de mes interventions, parce qu'au final, il n'y a toujours que deux catalyseurs, le secteur de l'IA ou Donald Trump. Donc, rappelez-vous, le mois dernier, je vous avais dit qu'on avait un range aux alentours des 8320 points et 8080 points. Et juste après mon intervention, en fait, nouvel accord avec l'Iran, qui cette fois avait l'air plus viable, plus sérieux, et du coup, le CAC avait cassé ce fameux range pour aller chercher le Tech Profit 1 à 8500 points. J'espérais la TH, il n'en est rien. En fait, le CAC a juste refermé son gap des 8570 points, qui était resté ouvert depuis le démarrage du conflit en Iran. Donc, comme on dit, Antoine, la boucle est bouclée. Hein. Et qu'a fait le CAC depuis un mois? Un nouveau range. 8500 points, 8320 points, donc était la borne haute de l'ancien range, et borne qu'on a cassée hier avec les déclarations de Donald Trump, qui dit que l'Iran a violé le cessez-le-feu et donc risque d'un redémarrage du conflit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on attend? On a vu un pullback sur encore ces fameux 8320 points, donc une zone possible où on peut shorter. J'ai pas pris le short ce matin, j'ai pas eu le temps de prendre le short. Donc j'observe cette zone, j'observe la réaction pour savoir si on va réintégrer ce fameux range ou si on va vraiment le casser pour aller chercher du coup les 8180 points et les 8080 points qui est encore la borne basse de l'ancien range.
Bon, et sinon, au menu du jour, est-ce qu'il y a un actif que vous regardez de manière un petit peu plus particulière? Tiens, on va faire une extension, un truc qui risque de bouger sur la deuxième partie d'année aussi, de manière...
J'ai même deux actifs, Antoine, à vous proposer ce matin.
On est gâtés, Michael.
C'est pour la dernière, en fait. Ouais. Je vous parlais de Prodway et de Gaumont. En fait, Prodway, j'en avais déjà parlé. Rappelez-vous, elle avait vendu sa division software pour 36 millions d'euros. Et devait reverser cette somme sous forme de dividende. Ça sera pas un dividende, ça sera une OPRA. Qu'est-ce qu'une OPRA? Une offre publique de rachat d'actions, ça veut dire que l'entreprise va racheter une partie de vos titres à un prix défini. Ça sera 1,10€, et sachant qu'ils vont racheter à peu près 18 millions de titres, et que les deux tiers, ça sera par contre les titres du PDG, ça veut dire que vous aurez au moins 35% de vos titres qui seront rachetés à 1,10€. Et pour que vous soyez perdant sur l'opération, parce que du coup, le reliquat vous ressort distribué au mois d'août, il faudra que l'action baisse de 25%. Donc, je trouve que le risque-reward est plutôt pas trop mal. Et pour plus d'informations, pour le mécanisme, renseignez-vous auprès de votre broker. Quant à Gaumont, en fait, c'est une OPR, une offre publique de retrait. L'AMF a demandé à la famille Seydoux de retirer le titre de la cote. La famille Seydoux a refusé, c'est parti au tribunal. Le tribunal de Paris a statué et a donné raison à l'AMF. Donc, la famille Seydoux a fait une offre à 90€, une offre au rabais, hein, parce que l'action était à 130€ juste avant. Et quand on sait que les actifs, rien que l'immobilier, vaut 120€, d'ailleurs, le marché n'est pas tout à fait d'accord avec cette offre, hein, parce qu'aujourd'hui, l'action cote 110€. Et personnellement, déjà, je fais confiance à l'AMF et surtout aux actionnaires, aux petits actionnaires, notamment Gay Lussac Gestion, hein, qui fait partie des actionnaires minoritaires, que vous devez connaître, Antoine, hein, sur BFM. Et du coup, qui va décider du prix? C'est le rapport de l'expert indépendant qu'on attend depuis près de 2 mois. Alors certains y voient un bon signe, je ne sais pas, mais j'espère quand même 130, 140€, j'ai même entendu jusqu'à 200€, j'y crois pas personnellement. Déjà une offre aux alentours des 130, 140€, voire 150, ça serait très bien. Donc deux actifs à surveiller.
Merci infiniment, Michael Landreau. On vous retrouve évidemment à la rentrée. Bon été à vous pour de prochaines analyses toujours aussi scrupuleuses des tendances techniques sur les marchés. Plus 0,3 pour le CAC 40, on est à 8277 points. Restez avec nous, c'est bientôt l'heure du déjeuner. On vous prépare un gratin de poisson, on vous en a parlé pendant toute la saison. On va soulever le capot, une fois pour toutes, des produits structurés avec le chef François-Xavier Seul. À tout de suite.
Pour investir, la boîte à outils.
Allez, la dernière boîte à outils de la saison, François-Xavier Seul de Terra et bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors on en a parlé pendant toute l'année, on avait eu une alerte de Karen Lorme-Régène que je tiens à remercier aussi parce que ça avait fait pas mal de retentissement, hein, notamment sur les réseaux sociaux, mais oui, l'inquiétude légitime autour de ce qui se passe, autour des produits dérivés. Alors, c'est la métaphore du gratin de poisson que vous avez peut-être pu voir dans le film The Big Short. C'est très très bien expliqué, mais voilà, le gratin de poisson, ça peut être absolument délicieux si le poisson est frais, si l'estomac est adapté et si les papilles sont adaptées. Ce qui est peut-être pas forcément intuitif au premier coup d'œil, François-Xavier. Globalement, en plus, on nous a vendu ça pendant des années dans les réseaux bancaires et chez les gestionnaires.
Oui, c'est très poussé. Pourquoi ? Parce que c'est très margé aussi. Ça, faut comprendre ce qu'il y a dedans. Hein. C'est aussi la question. Moi, globalement, je suis pas un grand fanat de ce qu'on appelle le produit structuré. Je pense que ça représente moins d'1% de l'encours de mon cabinet. Donc, quand j'en fais, c'est vraiment que je l'ai vraiment sélectionné et ou qu'on me l'a vraiment demandé et mis en concurrence. Et par contre, s'intéresser au marché du produit structuré, c'est intéressant. Parce qu'en fait, s'intéresser au marché du produit structuré, c'est s'intéresser à un produit qui est construit sur de la volatilité. Le structuré, c'est un produit de volatilité. Et en fait, ça dit quelque chose des acheteurs, ça dit quelque chose des vendeurs.
Surtout le climat de marché, de manière générale.
Voilà. Ouais. Surtout si on s'intéresse aux cas qui sont un peu particuliers. Voilà, qui sont des cas un peu caricaturaux, mais qui sont quand même intéressants.
Alors, Karen Land, Margène, elle nous avait tiré la sonnette d'alarme spécifiquement parce qu'il y avait certains produits qui étaient un peu monoproduits.
Oui.
Et quand on se trouve avec du Stellantis, avec ne serait-ce que de l'effet de levier ou quelque chose qui...
Stellantis, boum, 2,5 milliards de pertes.
Voilà.
Mais j'ai aussi, moi, des produits que je récupère de temps en temps sur les transferts de courtage. Je récupère des produits qui ont été faits sur Renault il y a 8 ans. On est à moins 80. J'ai du Unibail Rodamco qui a été fait avant le Covid.
Oui.
Et globalement, si on vous propose ce qu'on appelle du structuré single stock sur une action, y allez pas.
D'accord. Voilà.
Peut-être un particulier, y allez pas. J'en ai aussi qui ont été faits il y a quelques années sur LVMH. Et je sais pas pourquoi, à peu près systématiquement derrière, c'est compliqué sur le single stock d'avoir des bons résultats, j'ai l'impression.
Oui, disons que c'est un petit peu contre-intuitif parce que le produit structuré vous permet, avec alors un certain nombre de mécanismes qu'il faut décrire et qu'il faut décrypter. Voilà, on va rentrer dedans. Mais on se prive d'une partie de diversification qui aurait pu être intégrée au produit même.
Oui, en fait, c'est très français, en quelque sorte. Parce qu'en fait, on veut investir sur la bourse, mais on veut une protection. Donc en fait, on se cape à la hausse pour se protéger à la baisse. C'est ça. En fait, on est vendeur de volatilité. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre.
Donc, au pire, on perd. Au mieux, on fait pas grand-chose.
Au mieux, la performance est capée. C'est toujours cette idée-là. Et puis, encore une fois, il faut regarder la structure des frais. Parce que la structure des frais est compliquée à comprendre. Parce que vous avez les frais de l'émetteur, vous avez les frais d'une banque dépositaire, vous avez les frais du CGP ou de la banque qui va le distribuer. L'AMF, dans son étude récemment, a quand même montré qu'on pouvait monter jusqu'à 13%. Sachant que généralement, la première barrière de liquidité, elle est à un an.
Ouais.
Donc, il faut prévoir de passer les frais des 13% en un an. Donc, c'est pour vous dire que ça peut être quand même très, très cher. Bien évidemment, ils ne sont pas tous à 13. Je crois que la moyenne était à 6. Mais quand même à 6.
Ouais,
à passer sur un an.
Oui, oui.
Plus la perte des données derrière.
Donc, il y a
quand même, faut comprendre le risque qu'il y a en dessous.
Il y a un petit côté bête-clic là-dedans. Hein.
Alors, oui. Et justement, je vais vous le comparer. Après, on va prendre un exemple et je vais vous le comparer avec les paris sportifs.
Intéressant. Ben oui, parce que, il y a aussi, et voilà, on va rentrer dans le détail, mais tous les mécanismes qui assortissent justement ces prises de position à l'intérieur du produit structuré.
Exactement. C'est toute une série de mécanismes. En fait, ça repose sur une obligation bancaire, pour être clair, sur un émetteur qu'on achète, ce qu'on appelle une obligation coupon zéro, parce qu'en fait, c'est une obligation bancaire qui se rembourse en 5 ans, 7 ans, 8 ans, et qui, en fait, on va acheter 80, et c'est ce qui permet de garantir à 100 au bout de quelques années. Et les 20 de différence qui ont entre 80 et 100, c'est ça qui va permettre d'acheter, de vendre des options, et qui permet de construire la formule qu'il y a autour. Donc, le premier risque, quand on dit ça, c'est quoi ? C'est pas la formule et la structuration, c'est l'obligation bancaire qui est en dessous.
C'est ça.
Moi, j'en voyais encore passer il y a 2-3 ans sur Crédit Suisse. Alors, Crédit Suisse, c'est de l'obligation senior, pour le coup.
Oui.
Donc, il n'y a pas eu de défaut.
Non.
Mais on n'est quand même pas passé loin. Donc, je pense qu'il y a 2-3 conseillers, 2-3 investisseurs qui ont dû quand même se faire des cheveux blancs.
Hein. Oui, il y a eu un stress.
On en a vu passer aussi il y a quelques années sur Deutsche Bank. Deutsche Bank, il y a quelques années, moi, je n'y serais pas forcément allé non plus. Donc, c'est quand même des choses sur lesquelles il faut faire attention. Le premier risque, c'est l'obligation. Ouais. Le deuxième risque, c'est le produit.
En lui-même.
Et c'est intéressant de comprendre comment on émet, en fait, un produit structuré.
Ouais, ouais.
Un produit structuré, ça part d'une banque d'investissement. C'est ça qui est très important. Mmh. Une banque d'investissement, donc c'est une branche du système bancaire.
Une banque de marché.
Qui va voilà, des fonds, à faire des opérations de fusion-acquisition, des choses comme ça. Et en fait, vous avez des équipes de trading qui, globalement, vont envoyer toutes les semaines, tous les 15 jours, ce qu'ils appellent des axes de trading. Les axes de trading, ce sont des sous-jacents que l'on va regarder et que... on va envoyer à des équipes de sales, donc à des équipes de vendeurs, qui, eux, vont être chargés de trouver des investisseurs pour aller prendre ces risques-là. Mmh. En fait, ce que les traders vont anticiper, c'est l'évolution à la hausse de la volatilité des sous-jacents. Ils estiment que sur ces sous-jacents, il va y avoir une hausse de la volatilité.
Ouais.
Ils veulent s'y exposer, donc ils cherchent des acheteurs, et c'est comme ça que vous les retrouvez dans les produits structurés. C'est pour ça qu'il faut comprendre que quand vous achetez un produit structuré, vous achetez de la volatilité. Donc, j'ai quelques petits exemples, des cas un peu particuliers qui m'ont été proposés cette semaine.
Oui.
Pour vous dire, c'est bien la première fois que quand je fais une chronique sur BFM, quand je passe comme ça des petits coups de fil et que habituellement je prends des infos juste pour être sûr de ce que je dis, habituellement on me dit, bon, place mon nom à l'antenne, ça fait toujours plaisir. Là, on m'a fait jurer de ne pas donner de nom.
Oh purée. Ok, donc on est sur du gratin de poisson avec du poisson.
Jus.
Bref, expliquez-nous.
Bah, écoutez, je vais vous prendre un petit exemple. Écoutez, imaginez, c'est l'appel de votre banquier.
Ouais.
Cher monsieur Larry Gaudry, bonjour, c'est votre banquier. J'ai un produit à vous vendre, à vous conseiller pour diversifier votre patrimoine, votre portefeuille financier.
Oui.
Un produit court, 12 mois. C'est bien, 12 mois, c'est court, c'est un horizon d'investissement court.
Ça a intérêt à cracher sur 12 mois.
Et puis, un produit sur le Nasdaq, ils sont forts les Américains, c'est super.
Ouh là 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 là.
Et le Nasdaq, si au cours de la prochaine année, il ne tombe jamais sous moins 30 en séance, il ne fait jamais plus de moins 30 en séance, eh bien, je vous donne 4%. 4% si le Nasdaq ne tape jamais moins 30 en séance.
Ouais.
S'il tape moins 31, moins 32, moins 33, chaque fois que vous faites un point de plus, vous perdez 10%. À moins 40, vous êtes à zéro.
Donc,
la pire perte du Nasdaq, c'est moins 15 en séance. C'était en octobre 87.
OK. Donc là, on se dit, a priori, ça va.
Non. Mais en fait, c'est comme les paris sportifs.
Ouais. C'est exactement, c'est Polymarket ou Betclic.
On vous donne 4% ou vous perdez assez rapidement tout. C'est comme si vous avez un match, je sais pas moi, France-Cap-Vert. La France est ultra favorite. Si vous gagnez, vous avez un tout petit gain. Par contre, si vous perdez, vous perdez tout.
Oh purée.
Et c'est la même chose. Et très sincèrement, du 4%, moi aujourd'hui, je vous le fais sur un an avec
avec du 10 ans américain, tiens.
Avec du 10 ans américain, voilà. Je vous le fais avec du garanti en capital sur une assurance vie avec un taux boosté à un an. Aujourd'hui, vous l'avez.
C'est fou, ouais.
Bon, allez, je sens bien que ça ne vous plaît pas, le produit. Donc, le banquier, il tente un deuxième. SKNX. SKNX. Ils sont forts, ces Sud-Coréens.
Bon, c'est nos sueurs froides du matin en ce moment. Ouais.
Moi, je vous propose un produit à 12 mois.
Ouais.
12 mois, si SKNX ne tape pas moins 45 en séance, vous touchez 11,60.
11,60, oui.
Si on ne tape pas moins 45 en séance. Et si on va plus loin, alors en fait...
Honnêtement, je n'y mettrai pas ma chemise. Du moins 40 en séance, je n'y mettrai pas ma chemise.
Et si on va à moins 70, vous récupérez, parce que c'est progressif là pour le coup, si on est à moins 70, vous récupérez 54% du capital plus le coupon de 11, donc vous faites un moins 30 sur le capital investi. Très sincèrement, vous avez envie de faire du SKNX, prenez SKNX, mais...
Ouais.
Moi, je le conseillerais pas.
Ouais. Finalement, le poisson, c'est bien. Le gratin de poisson, bon, faut être sélectif. Il faut bien se faire expliquer les ingrédients, faut bien se faire expliquer les modes de cuisson aussi, savoir s'il y a des allergènes dedans. En fait, tout est dit.
Et puis, on peut le faire en euros, on peut le faire en dollars, on peut le faire en francs suisses. En fait, ça dépend des taux. C'est là que vous comprenez aussi que c'est un produit de taux, parce que les taux sont plus bas en Suisse. Donc, si jamais vous l'achetez en francs suisses, ça rémunère moins qu'en euros. Comme les taux sont plus élevés aux US, ça rémunère plus si vous le prenez en dollars.
Évidemment.
Donc, voilà, tout ça, ce sont les jeux qu'on peut faire.
Ouais.
Mais ça en devient du jeu, ça devient du pari, ça devient
c'est Polymarket.
Et c'est des produits de volatilité, c'est des produits de taux, c'est des produits de trading. Et c'est aussi tout ce qu'on n'aime pas. C'est pour ça que la finance est critiquée. Parce qu'un trader, il s'ennuie quand les marchés sont plats, quand il n'y a pas de volatilité.
Bah, il se nourrit de la volatilité, bien sûr.
Hier, il y a des frappes en Iran. Bah, le trader, je suis désolé, mais il est content. Parce qu'il y a de la volatilité à la baisse ou à la hausse. C'est des produits de volatilité. Et c'est ça aussi qui fait une mauvaise idée, une mauvaise image de ce qu'est la finance. Donc, méfiance sur tous ces produits, les produits structurés. Moi, j'ai connu ça au début de ma carrière. On en mettait 5%. Et après, on m'a dit, tu peux en mettre 10, tu peux en mettre 15, tu peux en mettre 20. Et tu peux en mettre aux gens qui ont 80 ans, même si c'est à 7 ans. Parce que tu sais, en cas de succession, ça se transmet. Ça, on me l'a dit un jour.
Oui, d'accord. Bon. François-Xavier Sœur, Terrail, merci infiniment.
Vous êtes désespéré pour la dernière de l'année.
Non, au contraire. Ben non, mais on est dans cette nécessité d'éducation financière et c'est toujours bien de remettre les choses un petit peu à leur place et de décrypter les recettes des produits financiers. Merci infiniment. On passe tout de suite au placement à suivre.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Éric Lewin de Bourse Direct, bonjour.
Bonjour mon cher Antoine.
Mon cher Éric, quelle année étonnante sur les marchés, mais quelle année étonnante aussi sur les small et mid caps. Déjà, le premier semestre, on a l'impression d'un petit semestre pour rien.
Ouais, écoutez, tout à fait. Alors quand on regarde les variations, il n'y a pas grand-chose. Le CAC 40 plus 1,3%, le MID plus 0,4%, le CAC Small plus 1%. En fait, la grande problématique, c'est quand vous regardez les principales pondérations du CAC Small, elles ont plutôt baissé. C'est pour ça qu'on a cette performance. Donc, à part OVH, qui est la plus forte pondération, qui gagne 107%, eh ben, c'est un peu mitigé. Altarea, on parle de l'immobilier, moins 14%. Antin Infrastructure, on est dans l'infra, moins 21%. Planisware, éditeur de logiciels, moins 13%. Et même Robertet, dans les arômes, dans les ingrédients naturels, une très belle boîte, pourtant, qui n'est pas très cher, avec un PER de 14, eh bien, Robertet perd 8,4%. Donc, le tableau est mitigé, alors que pourtant, on le verra tout à l'heure, il y a eu de très très belles performances.
Bon, et puis, oui, justement, il y a quand même un facteur qui touche beaucoup les small et mid cap, surtout sur ce semestre. On voit énormément d'opérations financières, de fusion-acquisition, de rachat, d'entreprises qui se disent « Tiens, le private equity, c'est peut-être mieux que la bourse, etc. » Et est-ce que ça a été le catalyseur maître ?
Bah écoutez, oui, il y en a eu beaucoup. Alors, rien que durant le mois dernier, il y a eu Thales, on en a parlé, qui s'offre Exile dans les drones. À 134 € par action, ça fait une valorisation de quasiment 4 milliards. Patience, hein, dans ce dossier, ça vaut toujours 124-125, je le disais avec Guillaume lundi, parce que Thales va acquérir la participation de la famille Gorgé simplement au troisième trimestre 2027 avec une offre dans la foulée début 2028. Donc c'est pour ça que ça vaut 124 €. Autre opération intéressante, Pierre et Vacances à 1,90 €. On savait que tous les fonds étaient vendeur, c'est un fonds émirati qui s'appelle Mubadala Capital, qui pourrait même verser un coupon supplémentaire de 10 centimes si jamais ils arrivaient à retirer Pierre et Vacances de la cote en ayant 80% du capital. Pour l'instant, ils ont 58,6% du capital. Un peu déçu quand même, mon cher Antoine, sur cette opération, parce que ça vaut 13 fois les bénéfices. On aurait pu estimer un peu plus, d'autant plus que Pierre et Vacances, on est vraiment dans le problème des vacances. Vous l'avez vu, les prix des billets ne cessent d'augmenter, notamment je parle du transport aérien, et de plus en plus de Français choisir d'aller en vacances en France, donc c'est dommage que Pierre et Vacances sortent de la cote. 1,90, c'est un peu radino sur les bords, si vous me permettez cette expression. Autre valeur voyageur du monde, alors ouais. OPA des fondateurs et des principaux actionnaires, c'est cette semaine, 180 € par action, ils sont associés donc à des fonds. Alors la prime est au-dessus de 20%, c'est une boîte qui est cotée depuis 20 ans. Alors que disent les fondateurs? Et ça c'est intéressant, en fait la bourse ne leur sert plus à grand-chose. Il y a même eu un mot de la part des fondateurs, c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que quand ils sont introduits en juillet 2006, il y avait 35% de flottants, maintenant il y a simplement 13% de flottants. Ça m'amène à vous dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui en ont un petit peu assez de la bourse. Il y a eu également Chargeur qui fait une OPRA, offre publique de rachat d'actions sur 10% de son capital. L'action se traînait à 7,70 € alors qu'on a un actif net de 24 €. Et donc la direction a décidé de faire une OPRA à 14 € par action, donc quasiment plus du double par rapport au cours de 7,50 € qui est avant l'opération. L'action a gagné 27,3%, mais ça démontre qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui en ont ras-le-bol de la bourse, qui s'aperçoivent que la bourse ne remplit pas son jeu. Alors est-ce que c'est la faute des gérants institutionnels qui ne sont plus tellement là? Possible, les particuliers sont là, mais on a vraiment le sentiment que la cote se raréfie comme peau de chagrin. Et j'ai envie de vous dire, heureusement quand même que les particuliers sauvent la tendance, parce que vous avez de moins en moins de sociétés de gestion, elles se concentrent de plus en plus, et elles ne descendent plus beaucoup en dessous du 1 milliard d'euros. Donc c'est un vrai problème sur lequel, à mon avis, les autorités de la place devraient vraiment se pencher.
Bon, et puis il y a quand même eu quelques belles histoires. Alors, des histoires un petit peu compliquées, un petit peu volatiles, dans le domaine des semi-conducteurs, sur les small et mid-cap. Ce semestre, il y a deux noms qui n'arrêtaient pas d'être prononcés sur les forums de questions, sur nos questions d'auditeurs, etc., même à BFM Bourse. Il y avait deux CRSI et Calray.
Bon, Calray, on est bien sûr dans les processeurs, notamment pour les centres de données, l'IA et le stockage. Plus 538% depuis le début d'année. Attention, divisé par deux, quand même par rapport à son plus haut de 16 €, ça vaut 8 €. Alors, nette amélioration des comptes en 2025. Mais une société qui reste déficitaire, ils ont fait simplement chiffre d'affaires de 16 millions en 2025. Perte nette 4,5 millions. Capi, quand même, c'est élevé, 125 millions d'euros. Je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien qu'on me dise que j'ai rien compris à l'IA. Mais ça paraît quand même encore très cher. Ça m'étonnerait pas que ça continue à consolider. Et puis deux CRSI, 183% de hausse depuis le début d'année, mais moins 30% en un mois. Rapidement, fabricant de serveurs, il a été accusé de fraude à la mi-juin. On était au cours de 60 euros. Ça a baissé à 16 euros. La direction a contre-attaqué en disant pas du tout. Les contrats aux États-Unis sont de vrais contrats. Le titre est remonté au-dessus de 30 euros. Pour l'instant, on a l'impression que l'incendie est éteint, mais en tout cas, le fait d'être accusé de mentir sur les contrats, ça a conduit à une valorisation divisée par deux sur deux CRSI.
Et puis, notre dossier un petit peu à problème, on va dire, Maison du Monde, hein, ça reste quand même un dossier chaud. Excel aussi, qui était un des chéris des gérants small et mid caps il y a encore quelques mois, mais c'est plus ça du tout en ce moment.
Ouais, on commence par Excel, 49% de baisse depuis le début d'année, Capi revenu à 137 millions d'euros. Qu'est-ce qu'ils font nos amis, spécialistes de la pulvérisation agricole et industrielle? Alors là, c'est franchement pas bon. Le chiffre d'affaires sur le S1, moins 14%, 381 millions d'euros. L'EBITDA est passé de 20 millions à une perte de 7 millions. Perte d'exploitation de 22 millions, perte nette de 18 millions. Ils annoncent que l'exercice est ultra compliqué avec une baisse de chiffre d'affaires de plus de 10%. Aucune reprise avant le second semestre 2026-2027. On est au niveau du Covid en termes de valo boursière, PER de 25, très franchement, j'ai pas envie d'y aller. Et puis l'énorme déception, mon cher Antoine, de ce premier semestre, c'est nos amis de Maison du Monde, ameublement et décoration, moins 89%, Capi qui est revenu à 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, pourquoi? Eh bien parce que les comptes sont catastrophiques, chiffre d'affaires annuel 2025, moins 5,4% à 947 millions d'euros, perte nette 406 millions d'euros, free cash flow négatif à hauteur de 55 millions d'euros et donc une recapitalisation. Je sais pas ce qu'il y a de plus important que massive, super massive, ultra massive, très massive. Disons que si vous aviez 1% du capital, mon cher Antoine, vous n'en auriez plus qu'après la recapitalisation que 0,05% avec deux fonds qui vont avoir 95% du capital. On est dans le même dossier que Orpea, qui s'appelle maintenant Emeis, avec des fonds qui arrivent et qui recapitalisent. Et là, l'actionnaire individuel est complètement squeezé et complètement rincé et il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc, Maison du Monde, ceux qui en ont, il faut sortir de ce dossier, ça vaut 20-22 centimes, mais en attendant que la recapitalisation se passe, sinon on risque d'être extrêmement, extrêmement dilué.
Il s'en sera passé des choses, hein, dans le domaine des small et mid cap depuis ce début d'année, depuis qu'on a ouvert la saison, hein, de Tout pour investir de manière générale. Et merci d'être avec nous, hein, toutes les semaines, Eric Lewin de Bourse Direct, pour justement ce journal hebdo des small et mid cap, toujours très riche d'enseignements. Restez avec nous, dans quelques instants on passe au coffre-fort et on va un petit peu boucler la boucle. Là aussi, on a commencé la saison par de lourdes interrogations sur l'or, mais on va la terminer pareil. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business. Marie-Cœur de Roy.
Les experts de l'IMO, c'est tous les jours sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de nos logements, qu'on soit propriétaire, occupant, accédant, investisseur. Toutes les réponses à vos questions avec les meilleurs experts sur BFM Business.
Les experts de l'IMO avec Marie-Cœur de Roy, du lundi au vendredi à midi sur BFM Business. Ce programme est à retrouver à la demande en podcast sur l'appli BFM Business et sur les plateformes de streaming. Tout pour investir, le coffre-fort.
Eh oui, on a commencé la saison, l'or n'arrêtait pas de grimper, c'était la valeur chouchou de tous les patrimoines, petits ou grands. On cherchait de l'or, on cherchait des lingots, on détaillait aussi le cours des différentes pièces avec nos spécialistes. Et puis, la guerre en Iran éclate et l'or n'est plus du tout une valeur refuge, n'est plus du tout une valeur défensive. C'est même devenu un actif risqué si on regarde les cours. Antoine Andréani, bonjour.
Bonjour Antoine.
D'XTB. Il y a une stat que vous nous donniez et que je redonne très très souvent lorsqu'il est question d'or, c'est que le bon de l'or, le bon séquentiel de l'or, il a commencé lors de l'émergence d'un truc qui s'appelait OpenAI et que depuis, Ça n'a pas arrêté, même si là, on est quand même en train de se poser de sérieuses questions sur comment ça se fait que cette pause dure aussi longtemps sur les cours.
C'est naturel, hein. Il faut respirer un petit peu avant une poussée de, après une poussée de 250% en moins de 4 ans, c'est normal.
Ouais, quand mais on élargit le scope, ouais, c'est ça.
Depuis octobre 2022, l'or s'est comporté comme un actif risqué en parallèle d'NVIDIA, du thème de l'IA. C'est donc ça. Ça peut surprendre. Et ce qui est très intéressant, c'est de suivre la corrélation négative avec le dollar, qui est très très propre depuis janvier 2025. On dirait vraiment un miroir. C'est très très beau à voir sur nos graphiques. Et depuis le réveil du dollar en 2026, eh bien voilà, ça nous rappelle que cette corrélation négative existe. Et hier à l'ouverture, c'était flagrant. Au début de la séance, on avait le VIX qui montait et l'or qui baissait en parallèle des indices américains. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on revienne sur un moment très important cette année. Ça a été depuis Epic Fury, l'opération militaire entre les États-Unis et l'Iran, du 28 février 2026. Depuis, l'or est monté, l'or a baissé. Ça, on le sait. OK, on en a parlé à de maintes reprises. L'inflation américaine est passée de 2,8% à 4,2% en l'espace de 3 mois.
Ça.
La Fed va réagir en septembre. 60% de chances que la Fed monte les taux. Et puis, le taux obligataire américain à 10 ans est passé de 3,93% à 4,69%, d'accord ? Et ce qui est surprenant, c'est depuis que Trump a annoncé un deal avec l'Iran, c'était le 13-14 juin, le pétrole, lui, s'est écroulé, sans surprise, et il est retourné à ses niveaux d'avant Epic Fury. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que depuis, les marchés obligataires à 10 ans, eux, l'ignorent totalement. Cette baisse du pétrole et reste à des niveaux très élevés. Et ça, ça alimente également le dollar à la hausse, ce qui heurte donc l'or.
L'or, bien sûr.
Donc, théoriquement, le dollar doit laisser l'or tranquille. Il faudrait qu'il effectue un pic pendant que l'or effectue son creux. Alors moi, d'après mes analyses, moi, vous savez que je suis les algo traders et et dans l'indice du dollar, je cible des résistances majeures à 105 points et à 107 points. C'est là qu'on pourrait avoir un pic dans le dollar, en parallèle d'un creux, à un niveau, par exemple, de 3840 $, voire 3760 $. Pourquoi pas en dessous, 3335, 3425, ce serait une belle bande pour investir dans l'or. Mais voilà, ça marche par miroir, c'est négativement corrélé et c'est très très joli à voir sur nos graphiques.
Alors, c'est vrai qu'on a des forces qui ont tendance à s'annuler un petit peu. Au milieu de tout ça, c'est quand même le dollar qui met un peu le bazar dans des fondamentaux de marché qui restent quand même, si on veut bien regarder les choses objectivement et se séparer un petit peu des biais comportementaux qu'on peut avoir, qui reste quand même très favorable à ne serait-ce qu'avoir une petite exposition à l'or. C'est quelque chose... on a commencé la saison en disant c'est indispensable à vos portefeuilles, etc. Pour de justes raisons qui ne sont pas forcément dédites en cette fin de saison.
Qui ne sont pas forcément, pardon ?
Dédites.
Disons que l'or, il faut en avoir dans son portefeuille, évidemment. C'est un actif que tout le monde adore parce que voilà, c'est mécaniquement, il ne cesse de monter dans l'histoire. Et donc évidemment qu'il en faut dans son portefeuille. On peut s'intéresser aussi aux minières d'or et voire d'argent carrément lorsque l'or effectue son creux. Mais c'est important de suivre comment le monde fonctionne, s'il est inflationniste ou déflationniste. Et il y a un sondage de Bank of America que je suis souvent qui nous dit que 45% des sondés s'attendent à une inflation plus forte dans 12 mois. C'est des chiffres importants. 34% considèrent qu'une seconde vague inflationniste est la menace numéro 1 à Wall Street.
Ouais.
L'inflation, l'or s'en nourrit. Et donc, c'est important de surveiller les forces inflationnistes ou déflationnistes. Alors, l'inflation, voilà, il y a différents types d'inflation. Il y a l'inflation géopolitique alimentée par des conflits, comme dernièrement ce qu'on a connu.
Oui, mais qui ont un effet direct. Et en ce moment, sur un facteur qui pourrait justement être déterminant pour cette fin d'année, c'est le niveau des taux d'intérêt.
Oui, et c'est pour ça qu'il faut les surveiller. Et eux, ils sont en train de nous dire, attention, l'inflation pourrait monter quelque part. Donc, soit du côté géopolitique, soit du côté de l'inflation organique qui, elle, est alimentée par l'économie. Peut-être que ça va surchauffer un peu aux États-Unis, on pourrait être surpris, parce qu'ils sont un petit peu en renaissance économique. Et puis, il y a l'inflation artificielle, financière, causée par les banquiers centraux. On va voir ce qui va se passer. Mais ce qui est super intéressant, c'est sur le plan géopolitique. Wall Street minimise totalement le risque inflationniste du côté de la géopolitique. Je pense à raison. On est dans un monde en totale mutation, on est dans une guerre entre mondialistes et nationalistes qui est féroce. Mmh. Il y a une tectonique des plaques géopolitiques qui est impressionnante et dictée par Trump via son agenda. Et si on regarde dans les années qui arrivent, dans la fin du deuxième mandat de Trump, du côté du nucléaire, la Corée du Nord, il s'en est occupé durant son premier mandat. Mmh. Il y a l'Iran actuellement. Lui, il y a un sujet qui est très très important dont on ne parle pas beaucoup, c'est que lui veut impérativement récupérer de l'uranium, un échantillon d'uranium là-bas pour tracer l'origine de cet uranium qui pourrait être du côté du Canada. Donc c'est un très très gros sujet. Du côté du pétrole, il y a le drill baby drill qui a été appliqué, ils sont occupés du Venezuela, de l'Iran. Donc de ce côté-là, il ne devrait pas théoriquement y avoir de risque inflationniste. Et puis il y a le sujet de la sortie de l'OTAN, qui pourrait automatiquement déclencher la paix entre la Russie et l'Iran. Est-ce que Trump ira jusqu'à là? Peut-être, je pense que oui, mais ça reste un point d'interrogation. Donc du côté de la géopolitique, je pense que l'inflation sera contenue. Par contre, voilà, du côté de l'inflation artificielle financière,
celle-là,
si l'inflation baisse, la Fed peut baisser les taux, le dollar baisse, et donc l'or monte, ce serait un scénario intéressant. Mais par contre, attention, les choses peuvent évoluer vite, je termine là-dessus, et dans le mauvais sens. Si on a une explosion de la bulle de l'IA, des semi-conducteurs, allez savoir, est-ce que ça ne peut pas déclencher une récession, des taux d'intérêt à zéro, Trump serait OK avec Warsh, et l'or repartirait de plus belle à la hausse. Et donc c'est important de cibler vraiment ces niveaux de support clés pour l'or et ces résistances clés pour le dollar.
Ouais, la machine peut très bien marcher, mais enfin, faut que tous les engrenages fonctionnent exactement comme il faut et rien n'est moins sûr. Antoine André Agnédix, TB, merci infiniment d'avoir été avec nous. TPI, c'est fini pour aujourd'hui, pour la saison. Vous retrouvez les meilleurs moments de l'émission à partir de lundi. Je voulais remercier à ce micro quand même les deux personnes qui réalisent 80% de cette émission. Il s'appelle Venezia Carrara et Gwendal Dobrez-Schall, ainsi que tous les copains à la régie qui s'occupent de tout et avec qui on fait un travail formidable. À la rentrée, tout le monde. Je vous laisse dans les mains de Marie Cœur de Roy pour les experts de l'IMO et je vous retrouve à 15h30, évidemment, aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. Demain, TPI, la masterclass, ce sera avec Christopher Dembick.
Tout pour investir sur BFM Business.